Tu es un fidèle de ce podcast, tu m'as probablement déjà entendu parler de l'ABM, l'Account-Based Marketing. L'ABM, c'est une stratégie business-to-business qui consiste à se focaliser sur le démarchage de comptes clés et à mettre en œuvre les approches combinées des forces marketing et des forces commerciales de ton entreprise pour gagner de nouveaux clients avec l'aide des outils digitaux du moment. L'Account-Based Marketing est-il entré dans une phase de maturité? Quelles sont les tendances actuelles et les bonnes pratiques de l'ABM en 2023, quels sont les indicateurs à utiliser pour savoir si on va dans le bon sens et on s'y prend comment pour démarrer si on n'a pas encore testé cette approche et puis comment les équipes marketing et commerciales arrivent-elles à travailler de façon très synchronisée et est-ce la fin de la guéguerre entre commerciaux et marketeurs? Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, Isabelle Defay, responsable commerciale des agences Winbound MV Group. Bonjour Isabelle.
Bonjour PPC.
Ça me fait tellement plaisir de t'accueillir. C'était notre rendez-vous annuel quasiment. On a fait sécher une année, l'année 2022, pour parler de l'ABM. Je voulais justement t'inviter parce que je voulais faire un peu le point et je voulais avoir ton point de vue sur la maturité de l'account-based marketing en 2023.
Bah écoute, c'est des questions qu'on se pose notamment via le baromètre qu'on essaie de sortir chaque année, qu'on a initié l'année dernière avec l'aide de nomination à nos côtés et le fait d'interviewer des praticiens, je préfère ce terme à celui d'expert, mais en tout cas des praticiens de l'ABM, pour justement mesurer un peu l'acculturation et la maturité du marché. Ce serait peut-être un petit peu présomptueux de dire qu'il y a une maturité du marché français sur l'ABM. En tout cas, il y a une vraie appétence sur le sujet. Il y a une vraie prise de conscience de la part des interlocuteurs qu'on peut avoir sur la nécessité de reconsidérer son approche et de mixer les méthodologies. Aujourd'hui, on n'a plus tellement la nécessité d'expliquer ce que c'est que l'inbound marketing, en tout cas de moins en moins. L'account-based marketing, on l'explique. En revanche, souvent, on se rend compte que on est un peu comme des Monsieur Jourdain. On le pratique sans savoir que ça porte ce nom-là. Et on renouvelle un peu des pratiques qui sont, pour certaines, anciennes, auxquelles on peut maintenant adjoindre la technologie, la data, le digital. Et c'est ça qui fait un peu le renouveau du marketing B2B et de cette appétence pour la account-based marketing. Donc le marché, il est un peu plus mature. Je ne parlerai pas encore de grande maturité sur le sujet, mais en tout cas, il y a une vraie appétence au regard du contexte aussi.
Tu nous parlais justement des outils digitaux. Voilà, donc on a les bonnes pratiques commerciales. J'ai compris que pour l'ABM, c'était les bonnes pratiques commerciales qui venaient s'adjoindre les compétences marketing. Et puis, il y a les outils digitaux, la data. Ce mélange de ces trois expertises, de ces trois spécialités, il se passe comment ?
C'est amusant que tu parles effectivement de commercial et marketing. Il y a pour moi une interrogation à laquelle je n'ai pas encore la réponse. C'est un peu le syndrome de la poule et de l'œuf. C'est est-ce que l'alignement, on parle beaucoup d'alignement entre les équipes commerciales et marketing, est un prérequis nécessaire à la mise en place de la account-based marketing, ou est-ce que c'est la mise en place de la account-based marketing qui va favoriser cet alignement qui est absolument nécessaire ? Je n'ai pas la réponse, on peut la reposer peut-être à tout le monde, mais c'est un vrai sujet. Et effectivement, la data est au cœur de ces stratégies et de cette approche parce que c'est ça qui va permettre d'avoir une approche personnalisée, d'avoir la capacité de se concentrer ses ressources sur les comptes les plus pertinents auprès des interlocuteurs les plus pertinents aussi, qu'ils soient décideurs ou influenceurs. On pourra évoquer le fait qu'on ne parle pas qu'aux décideurs, mais qu'on va aussi élargir le cercle pour faire bruisser et influencer positivement le compte. Et effectivement, la data, elle est absolument nécessaire parce que c'est ça qui va permettre de créer le contenu le plus adapté, qui va répondre aux problématiques qui auront été identifiées et aussi de mesurer Il n'y a rien de pire que de lancer une stratégie, une approche sans éléments de mesure. Comment est-ce que tu vas être capable de savoir si ça fonctionne ou pas ?
Dans les tendances, vous observez aussi, je ne sais pas si vous avez mesuré ça dans votre baromètre, une évolution aussi des investissements en faveur de l'ABM. On voit une déformation des investissements qui peuvent venir vers plutôt cette approche-là, ou c'est encore trop tôt ?
Dans le baromètre, on a une pratique qui est d'observer ce qui se passe au niveau international et de le comparer à des interviews qu'on mène en France. Dans la littérature et dans ce qui se produit au niveau international, on a forcément beaucoup de choses qui viennent des US. On a l'Inde aussi qui produit pas mal de contenu sur l'ABM. Et au fur et à mesure de l'année, nous, on va aller faire une veille constante sur tout ce qui se produit. Et il y a un chiffre, moi, qui avait retenu mon attention, qu'on retrouve dans le baromètre, qui est qu'aujourd'hui, 30% des budgets marketing sont dédiés à des actions ABM. Donc, c'est loin d'être neutre. Ça, c'est une donnée au niveau international. Après, au niveau français et dans les interlocuteurs qu'on a interrogés, on s'aperçoit que sur les entreprises contactées, il y en a plus de la moitié qui déploient une stratégie dédiée à capter l'attention des comptes prioritaires pour eux. Donc, quand je parle de prise de conscience, elle est là, c'est qu'il y a effectivement, de par un contexte plus tendu, on parle de contexte VUCA, où Laura te dira qu'on est sur un contexte banni, il y a nécessité à se renouveler et à ne pas se perdre dans le fait de s'adresser aux personnes qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas les décideurs, aux comptes qui ne seront peut-être pas les plus pertinents.
Tiens, Vincent rebondit et dit « C'est amusant qu'on parle d'ABM pour marketing alors qu'on parle de commerce dans le fond. Est-ce que ça veut dire, et c'est la question de Vincent, que c'est le marketing qui donne son renouveau au commerce ? Et deuxième question, est-ce que le commerce a du mal à sortir de ses ornières historiques ?
Alors c'est marrant parce que Vincent repose un débat alors qu'on a moins senti cette année versus le baromètre de l'année dernière. L'année dernière, il y avait beaucoup de littérature sur est-ce que c'est le bon terme de parler d'account-based marketing, parce qu'effectivement, ça n'englobe pas que le marketing. Il y a eu l'ABE, account-based engagement, il y a eu l'ABX, account-based experience. On l'a moins senti cette année. Je pense qu'on n'est plus sur une question sémantique, on est sur une question de génération de business et que la sémantique, on la met un peu à part. En revanche, le sujet est vrai, c'est le commerce est complètement impliqué dans cette approche-là. Et on parlait tout à l'heure d'alignement entre le commerce et le marketing. C'est crucial. C'est crucial et pour voir les équipes qu'on accompagne, c'est peut-être un vœu pieux de ma part, mais en tout cas, j'ai le sentiment que ça aide à ce rapprochement entre les équipes. Pourquoi ? Parce que le marketing aujourd'hui s'inscrit encore plus dans une génération de business et plus seulement de lead. On l'a souvent cantonné à le marketing met en place des approches, des méthodologies, des stratégies, des leviers qui vont générer des leads qualifiés qu'il va transmettre au commerce et vaille que vaille. Le commerce va râler parce qu'en plus, ils ne seront pas qualifiés. Ça, c'est la guéguerre qu'on entend souvent. Aujourd'hui, le marketing, notamment dans une approche ABM, s'inscrit dans une génération de business. Ça veut dire qu'il est générateur de valeur et non plus seulement de lead. Et il va, main dans la main avec le commerce, mettre en place des actions personnalisées et dédiées à capter l'attention soit de clients existants, parce que c'est pas que de la conquête, soit de clients existants, soit effectivement de new business, mais de génération de valeur et de business et pas seulement de lead. Donc oui, c'est effectivement un renouveau du commerce, du marketing et d'une vision commune et d'un travail commun.
Si j'entends bien, c'est pas uniquement de la conquête, hein, c'est aussi de l'équipement de clientèle qui peut s'opérer avec cette technique-là. On n'a pas parlé des outils. Est-ce que les outils ont évolué ? Est-ce qu'il y a des nouveautés en matière d'outils pour accompagner ces équipes qui travaillent la main dans la main, justement ?
Qui est central, qui existe depuis longtemps, que certains aiment ou aiment moins, qui s'appelle un CRM. Outil central et crucial pour ce type de stratégie. Il est parfois en désamour, hein, cet outil-là, au sein des équipes, mais il est crucial parce que, typiquement, c'est une des données qu'on a dans le baromètre. Aujourd'hui, 70% des entreprises qui mettent en place des actions s'appuient sur un CRM au cœur de leurs actions. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement indispensable, mais c'est ce qui va permettre de centraliser les informations, de s'assurer qu'effectivement, on mène des actions héroïstes et de vérifier que les actions qui sont menées vont justement générer ce qu'on évoquait juste avant, le business. Et d'avoir un accès, que ce soit du côté marketing ou du côté commerce, à cette même data, c'est crucial, effectivement.
Avant de démarrer l'enregistrement de ce podcast, tu t'es dit, tiens, j'aimerais poser une question aux participants, ce qu'on a fait. Tu leur as posé la question suivante. Pensez-vous que l'ABM est un bon moyen de dépoussiérer le marketing B2B? Et si oui ou sinon, pourquoi? Je vais te faire réagir sur deux premières réponses. C'est la réponse de Charles, qui lui dit pas forcément dépoussiérer le marketing B2B. Ça fait surtout, d'après lui, repenser les actions marketing communication en support du commercial pour toucher de nouveaux interlocuteurs métiers. Ça, c'est sa première réaction. Et puis, il y a Vincent aussi qui nous dit oui, mais c'est surtout sa structure. Et d'une certaine façon, ça le complexifie. Le commerce devient, selon Vincent d'ailleurs, complexe, peut-être au détriment d'une certaine intuition. L'ABM apporte des résultats indéniables. C'est une forme de vendeur augmenté. Comment tu réagis à ça?
Alors, j'aime bien les deux versions. Ma vision, pour moi, de ce dépoussiérage, elle est dans la créativité que ça permet. Que ce soit la créativité du côté marketing ou du côté commercial. C'est-à-dire que dans mon approche, c'est un moyen de revenir à une vente d'humain à humain. C'est-à-dire qu'on pourrait presque se libérer de cette notion de B2B ou de B2C et revenir d'humain à humain, notamment dans le fait qu'on s'adresse à des acheteurs en B2B ou des consommateurs en B2C, mais en tout cas, en termes d'acheteurs, c'est avant tout un humain qui a des problématiques, qui a des missions au quotidien, qui a, on parle de persona ou de job to be done, qui a des difficultés, des freins, des points de friction. Et en tant qu'entreprise, on a soit un produit, soit un service qui est la solution à cette problématique qu'on a identifiée. Et je trouve que l'ABM est intéressant dans le sens où il permet d'être hyper créatif dans la façon de capter l'attention. Et en tout cas, il nécessite effectivement de renouveler son approche, de renouveler sa façon d'interagir, comme je disais, de se nourrir de la data pour être le plus fin possible et le plus pertinent possible. Aujourd'hui, tu es en capacité d'aller observer ce que dit un décideur, sa façon d'interagir sur les réseaux sociaux s'il le fait, les propos qu'il tient dans des conférences, dans des tribunes, le positionnement d'une entreprise, la façon dont il communique ou pas, pour être le plus précis possible dans la manière dont tu vas approcher et capter l'attention de ce contact-là. Et ça t'oblige, toi, à être plus personnel, plus humain, et même d'être dans une approche émotionnelle, pourquoi pas, et de créer cette première attention, parfois en faisant un pas de côté, pourquoi pas. Et c'est là que c'est le créatif est hyper intéressant, pour justement sortir du lot. Encore plus dans un contexte aujourd'hui, comme le disait Vincent, complexe, où on a nécessité à se renouveler. Donc le dépoussiérage, pour moi, il était là.
Tiens, Valérie rebondit, dit « L'approche, finalement, n'est-elle pas dépassée dans le sens où le commercial doit être aujourd'hui plus qu'un commercial, mais il doit être un commercial marketeur ?»
Alors, je ne sais pas si elle est déjà dépassée dans le sens où elle est, comme on le disait au tout début, pas encore à sa maturité, selon moi, sur le marché français. Un commercial marketeur, j'aurais dit un commercial conseiller. Aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui apporte une solution à une problématique, soit par un produit, soit par un service, prend conscience de la problématique et conseille la solution. Et c'est en ce sens qu'il vend. La vente n'est que la conséquence du conseil. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, c'est beau, la vente d'écho, la conséquence du soleil, du conseil, parlez pas du soleil, c'est la pépite du jour. Tiens, Charles te pose une question. Dans l'ABM, qu'est-ce que font certaines entreprises en action concrète qu'elles ne faisaient pas il y a quelques années ?
Prendre le temps, qui est un luxe, encore plus aujourd'hui, d'observer et de recueillir de la donnée. C'est un vrai enjeu. Le recueil de données, dans les enjeux qu'on a relevés, il y a le recueil de données, la création du contenu. S'offrir le temps de s'assurer qu'on s'adresse aux bonnes personnes, qu'on a identifié les bonnes problématiques et qu'on n'est pas en train de se disperser à parler à plein de gens qui n'ont pas du tout besoin de vous, ça c'est un luxe. Et en action concrète, c'est... De regarder aussi ce qu'on a en capital contenu, en capital client existant, pour aller travailler par exemple en compte similaire à et pas se disperser à aller chercher des comptes, certes avec des super références qui feraient très jolies sur le site, mais qui sont trop éloignées de la capacité qu'on a à délivrer. Donc c'est peut-être pas super concret ce que je réponds, mais c'est le temps est un luxe nécessaire. Et en action concrète, c'est effectivement mettre le commerce et le marketing autour de la table, observer ce qu'on a comme capital contenu, mettre les bonnes ressources au bon endroit, s'équiper, s'outiller. On peut se lancer avec un fichier Excel, mais c'est quand même pas le plus efficace. J'avais fait un jour un post sur le fait qu'on partait monter l'Everest en tongs. On peut, mais il y a mieux.
Ouais, et puis ça, il faut qu'elle soit sacrément solide. Je me marre parce que Hubert vient de faire un truc formidable. Il dit, Isabelle, j'ai vu sur Instagram que tu ne partais pas en vacances. Est-ce que tu as des problèmes financiers ? Je peux t'aider. C'est vraiment une bonne pratique ce qu'a fait Hubert en matière de best marketing ou pas ?
C'est une approche. Pourquoi pas ? Il faut qu'il y ait une proposition de valeur derrière avec des exemples concrets, mais pourquoi pas ?
Merci beaucoup, Hubert. C'était le fou rire du jour. Merci beaucoup. Tiens, dernière question, c'est celle de Vincent. Il dit, est-ce qu'on intègre, tu parlais de ce temps long, un peu de ce luxe d'avoir le temps de faire les choses tranquillement, proprement, parce qu'il faut le faire proprement. Est-ce qu'on intègre les techniques de growth marketing dans l'ABM ou au contraire, non, il faut leur tourner le dos ?
Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Le growth a été un peu malmené. En tout cas, il y a eu une vision négative pour certaines pratiques sur lesquelles je ne corrobore pas. En revanche, il y a des approches qui peuvent être bénéfiques et qui peuvent être à considérer. Quand je parlais de temps long, Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on ne lance rien tant que tout n'est pas parfait. La perfection n'est pas de ce monde, donc sinon on ne se lance pas. On n'attend pas d'avoir tout bien cadré, mais en tout cas, on ne se lance pas bille en tête. On va chercher des comptes stratégiques clés, donc il ne faut pas non plus se tromper. En revanche, ce qui est à considérer, c'est effectivement qu'est-ce qui va permettre dans Growth de respecter à la fois ses valeurs, de respecter son ADN, de respecter sa manière d'être pour qu'il y ait valeur reçue en face. Donc ça peut être intéressant de le considérer pour s'assurer qu'on met les meilleurs moyens de son côté.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle. Merci d'être passée ce matin dans le podcast, prendre le petit déjeuner ensemble, c'est un plaisir, merci à toi.
Plaisir, tu le sais, à chaque fois, c'est un plaisir de t'entendre et d'être à tes côtés.
Oh, merveilleux.
À l'année prochaine, j'aurais tendance à dire.
Bonne année et à l'année prochaine. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, fais-toi plaisir.